Chapitre 44,
chapitre très important dans Netanya, comme tous les chapitres.
Bezrat Hashem, on va parler maintenant de l'amour de Dieu. Autant, bonsoir, dans les chapitres précédents, on a parlé de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pas le temps maintenant de résumer plusieurs cours qu'on a fait, mais on a expliqué en gros qu'il y a deux catégories de crainte de Dieu. Il y a la crainte de la punition, et il y a la crainte révérentielle d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas du tout la même chose, qui est une crainte beaucoup plus profonde. Alors, et qu'on a expliqué que ce sont deux niveaux qui sont complètement variés, et qu'il y a une gamme de crainte d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement différente d'une personne à l'autre. De la même façon, quand on va parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi énormément de niveaux de la façon comment chacun de nous va aimer Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut définir l'amour? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est quand on regarde tous les deux dans la même direction.
Oui, mais là, le problème, j'explique le problème qu'on a.
C'est que là. C'est pas moi, c'est Saint-Exupéry. Hein,
oui, j'ai pas de problème.
Ça défend.
Bah, y a pas de Saint-Dépend. Hein. C'est ça la définition de l'amour, par lui.
Le problème, oui, monsieur Benita.
Oui, monsieur.
C'est que. Oui, monsieur. Alors, le problème. C'est que là, on est en train de le définir un amour entre, non pas deux personnes, mais entre un homme et Dieu. Hein?
Oui, mais au début, vous n'avez pas précisé ça. Vous avez dit, quelle est la définition de l'amour?
Mais bien sûr.
Donc, ça veut dire en général. Donc, voilà, j'ai cité ça.
Mais c'est mon travail de vous piéger.
C'était pour savoir si tu connais Saint-Exupéry. Il a trouvé ici.
Alors, la réponse, elle est générale.
Ok. Bonsoir. Donc, je disais, comment on peut définir l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour? D'un côté, l'amour, c'est j'aime quelqu'un, bon, je l'aime parce que je suis intéressé. Et d'un autre côté, c'est pas un amour intéressé, c'est un amour désintéressé. C'est comme si je demande à quelqu'un, je lui dis, pourquoi tu aimes ta femme? Pourquoi tu aimes ton fils? Pourquoi tu aimes ta fille? Pourquoi tu aimes ton travail? Pourquoi tu aimes ta voiture? Je compare des choses qui n'ont rien à voir, je sais. Mais c'est des choses pour lesquelles un homme dit qu'il aime. Pourquoi tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes parce que tu as un intérêt que tu tires de ça? Et le jour où cet intérêt n'est plus au rendez-vous, bah, tu n'aimes plus les choses? Ou bien tu l'aimes parce que tu te sens profondément attaché avec cette chose? La réponse n'est pas simple. La réponse n'est pas simple parce que tant qu'on n'est pas confronté à des situations compliquées, on peut pas savoir est-ce qu'on est vraiment attaché à quelque chose ou pas. Ok. On va parler maintenant d'amour dans le couple, on va parler maintenant d'amour avec Dieu. On veut savoir comment définir la relation, l'amour qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Alors on va expliquer. D'accord? Veine, kol madregat avaraba, mibet madregot, elou. Vous avez dans les mots? Page 292, chapitre 44. Kol madrigat avamibat madrigot elum. Chaque niveau des degrés d'amour, donc de ces deux niveaux, avaraba et avat olam, qui sont avaraba et avat olam. Ça veut dire le grand amour et l'amour éternel. On va expliquer tout de suite. Nechleket le kama prinot madrigot le enket kol chad le fum shiuradile. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, נודע באשרים בעלה דקות שבריחו, דהיו התיידע והתדבק לכל חד לפום מה דמשאר בליבי. Très important ce qu'il va expliquer ici. Il te dit, c'est très difficile de quantifier l'amour, vous savez pourquoi? Parce que la façon que chacun de nous a d'aimer Akadosh Baruch Hu est unique. Ça veut dire que, tout à l'heure j'ai posé la question, M. Benita, il est tombé dans le panneau. Je lui dis, comment on peut définir l'amour? La réponse, je vais vous dire la réponse. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse.
Pourquoi pas?
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chacun de nous a une façon différente d'aimer. Ma façon d'aimer Dieu n'est pas ta façon d'aimer Dieu. Et ta façon d'aimer Dieu n'est pas sa façon d'aimer Dieu.
Exactement.
Et ma façon d'aimer Dieu aujourd'hui n'est pas ma façon d'aimer Dieu hier. Ma façon d'aimer Dieu aujourd'hui n'est pas ma façon d'aimer Dieu demain. Oui.
On parle de, tu parles de l'acte d'aimer du verbe, enfin du verbe.
Non, je parle aimer.
Tu as une façon différente, mais on peut aimer chacun.
Alors, voilà. Vous savez comment appelle le Zohar? Comment appelle le Zohar la mitzvah d'aimer à Kadosh Baruch Hu? Bonsoir. Le Zohar nous dit que la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu, il te dit aimer, c'est quelque chose qui est caché dans le cœur. Il y a des mitzvot, comme par exemple mettre les tefillin. Les tefillin que je mets et les tefillin que tu mets peuvent être les mêmes. C'est pas, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que les tefillin, c'est un acte. Et donc, un acte, l'acte que j'accomplis et l'acte que tu accomplis peut être le même. On est d'accord? À la porte de ta maison, il y a une mezouza. À la porte de ma maison, il y a une mezouza. C'est peut-être pas la même. Oui, mais théoriquement, ça peut être la même. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est un acte. Comme c'est un acte peut être le même. Il n'y a pas de problème avec ça. Mes tefillin peuvent être comme tes tefillin. Par contre, dès qu'on parle d'un sentiment, forcément, le sentiment d'une personne n'est pas comme le sentiment de l'autre.
Ah, d'accord.
Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On va développer. Non, mais ça veut dire, ce que je vais expliquer par là, ce que je vais expliquer par ici, évidemment, je pense que pour l'instant, je vous ai rien appris. Mais on va essayer d'expliquer comment définir l'amour par rapport à Kadosh Baruch Hu. Si tu me demandes comment définir la mitzvah et tefillin, je te réponds. Tu prends des boîtiers, tu prends des pots de cuir, tu fais des boîtiers, tu mets des lanières, tu mets du parchemin, je définis la mitzvah. On est d'accord? Monsieur, il dit comment définir la mitzvah et tefillin?
Non.
C'est facile. Tu prends des boîtiers, lanière, tu places, c'est fini. Et les téfilines que je mets aujourd'hui, c'est les mêmes que j'ai mises hier, et les mêmes que je mettrai demain, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui change, c'est ce qui se passe dans mon cœur. C'est la kavana que j'ai mis. Ça veut dire que, on peut par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui va tous les jours au même restaurant. Et que tous les jours, on lui sert exactement le même plat.
D'abord.
Non mais attendez, c'est pas un plat comme toi tu fais à la maison. Les gens ils te font la daffina à la maison ou la paella ou ce que vous voulez. Des fois ils disent c'est bien sorti, des fois ils disent c'est mal sorti. Pourquoi des fois ça sort bien, des fois ça sort mal, vous savez pourquoi?
Non.
Comment ça se fait?
T'as trop cuit, t'as pas resté d'eau.
Parce qu'il n'y a pas de formule. Des fois elle met un peu plus de sel, des fois elle met un peu plus de poids, des fois un peu plus de trucs, etc. Donc comme c'est pas précis, donc ça change. Le goût il change. Mais vous allez voir un pâtissier. D'accord? Vous allez voir un cuisinier. Il a une balance, tout est mesuré. C'est-à-dire, normalement, à moins qu'il y ait un problème dans les matières premières, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui ça sorte pas bon. C'est pas possible. Parce qu'il y a une formule. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez que vous allez tous les jours au même restaurant, et que tous les jours on vous sert le même plat. Un très bon plat. D'accord? Le plat sera le même. Le plat sera le même. C'est le même plat, tous les jours. Même plat, même formule, même grammage, même plat. Mais est-ce que tous les jours, je vais trouver le plat au même goût? Moi?
Non.
Ça dépend de tellement de paramètres. Ça dépend est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, qu'est-ce que j'ai mangé avant, qu'est-ce que j'ai mangé après. Ça dépend est-ce que je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur. Ça dépend de tellement de facteurs. Pourtant, c'est exactement, objectivement, si on avait une machine pour quantifier ça, pour jauger le goût, c'est exactement le même goût qu'hier. Mais peut-être que objectivement c'est le même goût, mais concrètement, moi qui le mange, c'est différent. Et là, avec ça, je vous parle de quelque chose que tout le monde peut voir. Ça veut dire c'est un goût, c'est quelque chose qui est le même. Maintenant, imaginez si je ne vous parle plus maintenant d'un plat, je vous parle d'un sentiment envers Akadosh Baruch Hu, un sentiment envers quelque chose. C'est très difficile à quantifier. C'est pour ça que le Zohar nous dit, c'est comme ça qu'on explique ce qui est écrit dans la Parasha Nitzavim. Dans la Parasha Nitzavim, il écrit la chose suivante. Il a écrit Hanistarot, ce qui est caché, l'Hachem Eloke, nous c'est pour Hachem notre Dieu. Bien Niglot, et ce qui est dévoilé, là nous Ulvané, nous pour nous et pour nos enfants. Le Zohar pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui me prend ce verset? Tout le monde sait que ce qui est caché est que Dieu qui connaît. C'est votre question, M. Benita. Tout le monde, tout à l'heure. Tout le monde sait que ce qui est caché, personne ne le connaît, et ce qui est dévoilé, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qui m'apprend le Zohar? Qu'est-ce qui m'apprend le texte? Et le Zohar répond comme ça, il dit pas du tout. Il dit, quand on parle des choses qui sont cachées, de quoi on parle? On parle pas des choses cachées, des secrets de la Torah, on parle des choses cachées qui sont dans ton cœur. Des choses qu'il n'y a que toi et Dieu qui savent, que personne d'autre sait. Ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ta sœur. Personne ne sait. T'as des sentiments qui sont dans ton cœur que personne n'est au courant quand tu as ces sentiments. Et que Anistaroth, l'Hachem et l'Okenu. Ce qui est caché, c'est pour Hachem notre Dieu. Vehaniglot, ce qui est dévoilé, l'anu ulvanenu, c'est pour nous et pour nos enfants. D'ailleurs, vous savez, c'est la raison pour laquelle un tribunal, comment il juge, comment un tribunal fait pour juger? Il y a un cas qui est présenté devant un tribunal. Est-ce que le tribunal peut juger quel était le sentiment de la personne au moment où il a fait ce qu'il a fait? Incapable. Pourquoi il va se baser le tribunal? Sur une appréciation des faits. On se base sur des faits. D'accord? On regarde les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On se base sur les faits. Ok? Alors, ça c'est comment fonctionne. Ça c'est comment fonctionne. Il n'y a plus d'assiettes?
Non.
Hein? Parce que je crois que c'était pour autre chose, ça. Bon. Ok. Azak. Hein? Hein? Quoi? Il n'y a pas des comme ça, des.
Non, plastique.
Non, rien.
D'accord. Bon.
Non,
quoi?
Non, c'est pas carré,
carré. Ok. Non. On continue. Donc, comment aujourd'hui un tribunal va statuer? Un tribunal va statuer parce que le tribunal, il va regarder les faits. Maintenant, est-ce que le tribunal peut savoir ce que tu pensais au fond de toi? Incapable. Il ne peut pas savoir.
Pourtant, on est d'accord, des circonstances atténuantes.
Oui, d'accord. Ça, c'est parce que selon les faits montrent qu'il y a un problème. Les faits montrent qu'il y a quelque chose. Mais un tribunal est incapable de voir ce qu'il y a derrière. Il voit les faits. On juge sur les faits. Dieu ne juge pas que sur les faits. Il juge sur ce qu'il y a derrière les faits. Sur ce qui se cache. Et on dit que lorsque Mashiach reviendra, le Mashiach, il jugera par l'odorat. Comment on juge par l'odorat? Ça veut dire quoi? Comment tu juges par l'odorat? Alors, comment tu expliques? Il juge par l'odorat, c'est-à-dire que le Mashiach, il aura la capacité de juger les gens, pas seulement par rapport aux faits, par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ça tout le monde peut le faire. Il va être capable de sentir, comme on dit en français, ça sent pas bon. C'est-à-dire qu'il va être capable de sentir ce qu'il y a derrière les sentiments. Mais ça, aujourd'hui, nous, on est incapable de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un tribunal, un juge n'a pas le droit de juger sur une appréciation, et c'est pas sur une appréciation, enfin, sur une supposition. Il n'a pas le droit. Vous savez que lorsqu'un juge vous juge, halakhiquement, vous avez le droit de lui poser la question, mais Eran Dantouni, pourquoi tu me juges comme ça? Et il doit te répondre. Il n'a pas le droit de te dire, je t'ai jugé comme ça parce que je sentais. Il n'existe pas, tu sentais. Donne-moi des preuves. Qu'est-ce que t'as vu? T'as une preuve? Tu m'as vu? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on juge avec les faits. Parce qu'on est incapable de voir plus loin. Mais à Kadosh Baruch Hu, il voit plus loin. Kadosh Baruch Hu, il voit pas seulement les faits, il voit la kavana qui se cache derrière. C'est quoi la kavana? La kavana, c'est est-ce que j'aimais Dieu ou est-ce que je craignais Dieu? Est-ce que j'étais dedans ou est-ce que j'étais pas dedans? Et ça, il n'y a que vous qui le savez. Ça veut dire, moi je peux voir, si demain matin je viens à la synagogue, je peux regarder qui a mis les tefillines et qui n'a pas mis les tefillines. Ça, je peux voir. Maintenant, est-ce que je peux voir qui était dans le coup et qui n'était pas dans le coup? Qui les a mis par routine et qui en avait rien à faire ce qu'il a fait, qui était indifférent, etc. Ça, je suis incapable de savoir. Je suis incapable de savoir. Parce que, même si je crois pouvoir savoir, je ne peux pas le savoir. Ça, c'est Hanistarot, Lachem et Lokenu. Monsieur Yesdi, Hanistarot, c'est quoi Nistar?
Caché.
Niglot. Dérévélé. Ce qui est caché, c'est pour Hachem. Et que Hachem qui sait. Ce qui est dévoilé, c'est pour nous, c'est pour nous.
Mashiach, vous avez dit, lui, il va sentir.
Oui.
Comment il va sentir ce qu'il y a dans le cœur de chacun?
Parce que Mashiach, il aura cette capacité de ne pas s'arrêter à ce qu'il voit, mais de voir ce qu'il y a derrière. Ce qui est très compliqué. Oui. Parce que normalement, nous,
il n'a pas besoin de sentir.
Oui, j'ai compris, mais encore une fois, les choses qu'on voit évoluent très peu. Vous me suivez? Ça veut dire comme ça. Prenez par exemple ce paquet de crackers que vous avez devant vous ici. Vous aviez le même paquet de crackers il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Le paquet de crackers n'a pas changé. Donc le fait reste le même. Mais vous n'allez pas le trouver au même goût. Ça veut dire que peut-être que le goût que vous allez trouver, je vous invite à le prendre, le goût que vous allez trouver aujourd'hui sera différent du goût de la dernière fois. Chaque fois il est différent. Pourquoi? Parce que ça se passe dans votre cœur. Personne ne sait ce qui se passe dans votre cœur. Ce qui se passe dans les faits, moi je peux dire, j'ai vu M. Benita manger un cracker. Je l'ai vu la semaine dernière, il en a mangé 2, cette semaine j'ai vu il en a mangé 3. Ça je peux juger. Maintenant, est-ce que je peux dire, M. Benita il a aimé le cracker ou il n'a pas aimé le cracker? J'en sais rien. Il a plus aimé le cracker la dernière fois, il a moins aimé. D'accord. J'en sais rien.
D'accord.
Pourquoi je ne peux pas répondre à la question? Parce que la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est qui?
C'est moi.
C'est vous. Si vous avez la gentillesse de partager avec moi cette information, bah, c'est gentil. Vous pouvez mentir aussi. Et je suis incapable de savoir si vous m'avez menti ou pas. Incapable. Peut-être que vous me dites la vérité, peut-être que vous me dites la vérité. Alors, c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on parle d'amour et de crainte d'Akadosh Baruch Hu, et là on va parler dans ce chapitre d'amour, l'amour d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose qui évolue constamment. Ça évolue constamment. Et personne ne sait ce que tu as dans ton cœur. Personne ne sait. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Ça veut dire, moi et des fois des gens ils me disent, ah monsieur le rabbin, vous on voit que vous aimez Dieu. D'où tu sais? D'où tu sais ce que j'ai dans mon cœur? Vous on voit que vous craignez Dieu. D'où tu sais? Peut-être que toi tu crains Dieu plus que moi.
Non, ça on peut le dire. Craindre, oui.
D'où tu sais?
On peut définir et on peut dire.
Comment? Attendez.
Qui craint et qui craint pas.
Comment vous savez que je crains Dieu?
Ben par la manière dont vous vous comportez.
Ça veut rien dire, ça.
La manière dont vous êtes tout le temps en train d'étudier.
Non, monsieur Benita.
Voilà.
Vous pouvez dire.
Contrairement à nous, on n'a pas ce niveau-là.
Vous pouvez dire que je me comporte comme quelqu'un qui craint Dieu.
Voilà, ben oui.
Mais est-ce que ça veut dire que je crains Dieu?
Non. Ben c'est déjà mieux.
Non, vous ne savez rien.
Mais non, monsieur. Mais qui ne craint pas du tout.
Monsieur Benita, je donne un exemple. Voilà. J'aime pas ce frigate, mais comme vous me faites plaisir, je vais le prendre.
Charles, tu peux pas.
Regardez. J'aime pas, c'est pas mon goût. D'accord? Je vais faire comme si que j'aime. Vous allez voir, c'est-à-dire que je vais vous faire croire que j'aime. Bah, au radar de Ram Chakal Midvaro.
Non, si tu veux pas,
tu crois pas, moi. C'est
pas bon, c'est pas bon, j'aime pas.
Attends, on pourrait même dire que c'est une boisson qui ne peut pas sentir.
Sérieux? Ça veut dire si vous n'avez pas dit que j'aime pas, bon, je vais le boire maintenant. Vous aurez dit, Mendy, il aime le frigate. Il aime le frigate à banane, banane fraise.
Il
n'y
a pas de banane, il
n'y
a pas de fraise.
Vous comprenez? Ok. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, là, il aime pas. Okay. T'en sais rien. Peut-être que je te mens. T'en sais rien si j'aime ou j'aime pas.
Pourquoi tu as bu?
Hein? Ça, c'est un fait. Le fait que tu m'as vu boire. Mais est-ce que ça veut dire que j'aime?
Non.
J'en sais rien. Donc, est-ce que je peux savoir si tu aimes Dieu?
Non.
Non. Est-ce que je peux savoir combien tu aimes Dieu? Non, je peux pas savoir. Personne peut savoir. La seule personne qui peut le savoir, c'est qui?
Dieu.
C'est Akadosh Baruch Hu. Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs et qui sait ce qui se passe dans mon cœur. C'est la seule personne. Mais, deux secondes. Je précise ça pour expliquer. Ne soyez pas étonnés, si parfois on sent qu'on n'est pas dans le goût. Des fois, je sens que je fais les mitzvot, j'ai fait mon Shabbat. Mais des fois, t'as un Shabbat qui est passé, t'as rien senti. T'en as rien à faire. T'as rien fait. T'as senti comme un dimanche est passé, comme un lundi. T'as rien senti. Et ça te tracasse. Tu dis, mais comment j'ai rien senti? J'ai fait Shabbat. J'étais à la synagogue, j'ai mangé ce qu'il fallait, je me suis reposé, j'ai étudié la Torah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais je sens pas ça. T'expliques l'Admor HaZaken, il te dit des choses comme ça, un sentiment, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. Et c'est comme la bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire la même mitzvah tous les jours, et un jour elle te fait vibrer, elle te fait décoller, et un jour elle te dit rien.
Même la tefillah du matin.
Et c'est la même mitzvah que t'as fait. C'est ça ce qui est fou. Pourquoi? Parce que ça se passe dans le cœur. Et le cœur ne se maîtrise pas. On essaye de le maîtriser. Mais tu peux pas savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'une personne va plonger ou est-ce qu'une personne va pas plonger? Est-ce qu'il va être dedans? Est-ce qu'il est pas dedans? Ok. Maintenant, dans ce chapitre 44, qui est un chapitre très important, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Et là, vous allez voir, moi quand je lis ce chapitre, j'ai pas envie de dire ça me fait peur parce qu'on parle d'amour. Mais c'est un chapitre qui te fait réfléchir. On va t'expliquer qu'est-ce que c'est aimer Dieu. Craindre Dieu, on a expliqué ce que c'est dans le cours d'avant. Craindre Dieu, on a expliqué. Craindre la punition, la crainte de la révérence. Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? C'est vrai quand je dis j'aime Dieu. J'aime quoi? Tiens, j'aimerais faire un tour de table pour cette question, avant d'aller à la suite.
C'est difficile.
Attendez, je vais pas arriver à votre tour encore.
Personnel.
Comment je prends une
petite table? Là, attendez, on va faire le tour. J'aimerais que je vous donne le temps de réfléchir.
On va faire un tour de table, c'est bien.
D'accord. Non, mais c'est une question sérieuse que je pose. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aimer Dieu? Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez dire, je sais pas.
Aimer Dieu pour moi, c'est respecter les autres.
Non, c'est pas une bonne réponse. Parce que là, vous me parlez d'un acte. Je viens de, j'espère que ça a été clair, ça fait 20 minutes que j'essaie d'expliquer qu'il faut bien différencier un sentiment et un acte. C'est deux choses différentes. Donc là, je parle d'un sentiment. Comment vous définissez aimer Dieu ?
Faire plaisir.
Bon, qu'est-ce que, comment il dit ?
Le craindre.
Non, je parle d'amour.
Faire plaisir.
Vous voyez que c'est pas simple, hein ? Moi, c'est, moi, je vous dis que je cherche la réponse, même en moi, c'est pas simple. Hein ? Je parlais déjà d'aimer Dieu.
C'est pareil.
Il y a une réponse ? Fais le tour ?
Non, parce que c'est une notion tellement subjective.
Exactement.
On peut pas.
Donc voilà, donc votre réponse, on ne peut pas définir. Monsieur Cohen, comment vous définissez l'amour de Dieu ?
Moi, je dis par la forme de crainte.
Forme, non, la crainte, ce n'est pas l'amour.
La crainte à la femme.
Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu ?
C'est pareil, il faut prouver son amour.
Comment vous imaginez un homme amoureux
partager,
de Dieu
partager,
comment vous imaginez qu'est-ce, que, qu'est-ce que fait un amoureux de Dieu qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il se ressent
déjà, savoir si on aime Dieu. C'est ma première question. Déjà, est-ce qu'on est sûr d'avoir d'aimer Dieu ? Parce que si j'aimais Dieu, je dirais, bon, moi j'aimerais être éternel, ou ce que tu veux. Ça veut dire quoi, aimer Dieu ?
Mais c'est l'action que je pose. C'est quoi pour vous, aimer Dieu ?
C'est la question.
Vous allez rentrer chez vous ce soir, votre femme va dire, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui au cours de Tania ?
Si j'aime Dieu, je dirais que je... Qu'on ne soit pas limité. On est limité.
Comment tu définis aimer Dieu ? À quel moment tu sens que tu es amoureux de Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans ta vie pour sentir amoureux de Dieu ? Hein ? Bon, ok. Dan, bonsoir.
Dan,
t'es avec nous ? Comment tu définis l'amour de Dieu ?
C'est
une vaste question. Michael ?
Pas mieux.
Monsieur Lacoste ?
Moi, je dis partager et faire plaisir à Dieu. Je sais pas, quand je fais un truc, je dis, tiens, il va être content de ce que je vais faire.
Encore une fois, monsieur Lacoste, j'entends ce que vous dites, mais il y a un problème.
À lequel ?
Vous me dites faire plaisir à Dieu. Vous me parlez d'un acte.
Parce qu'il attend ça de
moi. Non, mais moi, j'ai compris.
Il me demande pourquoi faire.
Mais je vous demande pas un acte, moi.
Non, c'est un sentiment.
Je vous demande un sentiment. Comment vous définissez ce sentiment ?
Faire plaisir.
Faut pas définir. Tu aimes ou tu aimes pas.
C'est comment ?
C'est impossible de définir un sentiment.
Je vous donne un exemple.
D'accord.
Donc, je demande comment définir l'amour ? Comment définir l'amour ?
Définir l'amour, pour moi, c'est déjà prendre conscience.
Ah.
On a l'opportunité d'exister, de penser et d'être un être à part entière. À partir du moment où on a cette conscience-là, on comprend qu'il y a une volonté supérieure qui nous a créés, qui nous a permis d'exister. Et à ce moment-là, on va reconnaître peut-être l'aide suprême de nous avoir donné l'opportunité d'exister, de penser, de faire, de ne pas faire, de vivre. Prendre conscience de...
Le thème qui revient dans ce que vous avez dit, prendre conscience, comprendre, réaliser. C'est pas un sentiment, ça. C'est dans la tête.
Tout à l'heure, vous parlez de...
Non, là, je parle de sentiment.
Non, vous avez dit que tout à l'heure, c'est pas des sens, il faut pas parler de sentiment.
Non. La question que je pose maintenant, je dis comment définir l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu ? Mon but, c'est de montrer que pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est l'amour de Dieu.
Mais est-ce que c'est une conséquence ?
Non. C'est pas une conséquence, c'est un ressenti.
T'es content du sentiment, tu dis merci Hachem, je t'aime.
Ah, alors Serge dit, aimer Dieu, ça veut dire remercier Hachem.
Oui, parce que tu as vu avoir l'accident, tu dis bon, Hachem, je
peut-être bien sûr. D'accord, ok.
Mais pour quelque
chose. Et s'il ne rien passé ?
Non, mais.
Oui,
c'est déjà un miracle.
C'est Benita, vous avez réfléchi là.
Non, mon dernier, les fanécha.
Modèle, il y a la même chose, d'accord.
Je ne sais pas,
c'est une bonne réponse.
C'est par des actes, comme on a dit.
Ah non, c'est pas une bonne réponse.
Non, je ne veux pas des actes.
C'est comme Serge, moi, c'est...
Tu prouves ton amour à quelqu'un, c'est
derrière. Non, je ne t'ai pas demandé de prouver l'amour. Je te dis, comment tu sens l'amour ?
Mais à chaque brachot que l'on fait, c'est remercier Dieu.
Oui, mais est-ce qu'on est dans...
Oui, d'accord. Ma question n'est pas qu'est-ce que je fais.
Mais si on remercie, c'est parce qu'on aime.
Ça veut dire, en d'autres termes, oui, Marcel.
On remercie, c'est qu'on l'aime, si on ne remercie pas.
D'accord, j'entends ce que tu dis. C'est pas forcément juste.
Pas forcément juste, mais...
C'est comme quelqu'un qui dit, si j'ai amené un bouquet de fleurs à ma femme, ça veut dire que je l'aime. C'est faux.
Bien sûr.
Non, c'est pour lui faire plaisir, c'est pas la même chose.
Mais qu'est-ce que t'en sais pour lui faire plaisir ? T'en sais rien pour qu'il ait un bouquet de fleurs.
T'en fous de tes fleurs. Il y a une bague en diamant.
Non ? Pas du tout.
Mais c'est stratégique, ça se trouve.
Mais bien sûr. Est-ce qu'un bouquet de fleurs, c'est une preuve d'amour ? Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais par contre, quand j'ai fait un acte.
C'est un acte. C'est pas un sentiment.
Et je sais que ça va faire plaisir.
Oui.
Là, j'ai le sentiment d'avoir fait plaisir à la.
Donc, c'est-à-dire faire plaisir. Quand quelqu'un dit de faire plaisir, oui.
J'entends.
D'accord, j'entends.
Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que je crois que si on commence déjà par s'aimer nous-mêmes, le sentiment d'amour qu'on a pour nous,
pour soi,
notre sentiment personnel, ça peut être le reflet de, d'une manière de pouvoir aimer.
Ok.
Mais on ne peut pas aimer sans passer par nous-mêmes.
D'accord.
Si tu passes par un objet en disant je t'offre des fleurs, non. Parce que c'est que l'objet.
La Mourazaken, il appelle ça un peu brûlant.
Attends, non, j'ai pas parlé encore, j'ai rien dit encore. Ah, rien dit pour l'instant, j'ai posé une question.
Nous, quand on tombe amoureux de notre femme, on a un coup de pouce. Pareil, c'est à l'intérieur de nous, ça brûle.
Ah, ça c'est l'amour pour toi.
Tais-toi maintenant, ça y est, l'amour.
Ça, c'est de l'amour.
C'est un sentiment, tu veux.
Attends.
D'abord, c'est un sentiment.
C'est de l'amour, ça.
Non.
Le coup de foot, c'est de l'amour.
Non.
C'est une pulsion. C'est une pulsion.
C'est
quoi alors? C'est une pulsion.
Bah non, c'est plus coup de foudre, c'est un coup de foudre.
Un coup de foudre. Je vais aller plus loin que ça. Je m'excuse d'être cru, d'accord. Mais lorsque t'as un coup de foudre pour quelqu'un,
c'est énorme.
C'est pas elle que tu aimes, c'est toi que tu t'aimes. Tu aimes le sentiment qu'elle te procure.
Non, ça c'est valable quand tu as.
Non, pas du tout.
Seulement qui
c'est ça.
Mais quand c'est tout le corps entier.
Mais pareil, tout le corps qui me fait vibrer.
C'est tout ton corps qui.
Donc
vibre,
je m'aime.
On vibre. On vibre.
Oui, mais
quand on voit quelqu'un qui sur lequel on flash, on vibre.
Mais je vibre pas pour elle. Elle me fait vibrer.
Donc
j'en ai rien à faire d'elle.
Mais
ça aurait pu être une machine qui me procure la même chose.
C'est grâce à ça que je vibre.
Oui. Donc c'est un moyen.
Voilà.
C'est grave.
Bah c'est grave de parler comme ça.
C'est un peu brûlant.
Bon. Alors, mon but, à vos tailles, ce monde est là, allez, je vais pas vous embrouiller. Qu'est-ce que c'est l'amour? Comment définir l'amour? Mon but, c'est de définir que, a priori, c'est très compliqué de définir l'amour. Définir un acte, on peut définir. On peut dire, l'acte, c'est ça, la mitzvah, c'est ça, d'accord? La vérité, c'est qu'on aurait pu, pourquoi on fait un cours comme ça? On peut faire un cours de halakha, un cours de choses qui sont concrètes. Le problème, c'est que si dans les 613 mitzvot, au lieu d'en avoir 613, il y en avait 611, et qu'il manquait les deux mitzvot, la mitzvah de craindre Dieu et la mitzvah d'aimer Dieu, on aurait pu dire, bon, les mitzvot, c'est des faits, aimer Dieu et craindre Dieu, c'est dans ton cœur, on ne te donne pas de mitzvah, tu fais comme tu sens, c'est tout, y a pas.
Ça, c'est une mitzvah d'aimer
Dieu. Exactement. Le problème, c'est que aimer Dieu et craindre Dieu, c'est une mitzvah. Donc, on est obligé de le définir, parce que quand tu fais une mitzvah, c'est pas juste à ton appréciation. Une mitzvah, on doit définir comment fonctionne une mitzvah. C'est pour ça qu'on est obligé de s'arrêter pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, l'amour. Comment définir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on a une définition. Le roi David nous donne une définition. Avant de donner la définition du roi David, Admor HaZaken précise un point très important. On passe à la page 294. Et vous allez voir, c'est pas très long. En 2-3 pages, on aura la réponse. Hein? Non, mais c'est-à-dire que la réponse n'est pas compliquée. Avant de donner la réponse. Alors, excusez-moi, je suis en bas de la page 293. Bon, mais en français, c'est de l'autre côté. Ach, cependant. En bas de la page 293. Ach, cependant. Achat i ahava aklula mikol prinot madrigat ahava rabba veavatola. Déjà, il y a un amour. Sans rentrer dans les détails, quel niveau d'amour j'ai? Est-ce que j'ai un grand amour, un petit amour? Il y a un amour que chacun de nous a en lui. Ve'ishava lechol nefesh mi'israël. C'est un amour qui est équitable, qui est identique pour chaque âme d'Israël. Ve'yerusha lanu me'avotenu, et qu'on a reçu en héritage de nos patriarches. Donc ça veut dire, avant déjà de définir l'amour, c'est très important pour la Marzakène de te préciser, ce que je vais te dire n'est pas quelque chose que tu n'as pas et que tu ne pourras pas atteindre. Parce qu'il va toucher lourd, il va toucher du gros. Mais le Morazak est tenu, ne crois pas que c'est quelque chose que tu ne peux pas atteindre. Non seulement que tu peux l'atteindre, tu l'as déjà. Seulement tu n'arrives pas à l'exprimer. Très important d'expliquer ça. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de chercher à atteindre quelque chose que tu n'as pas. On est en train d'essayer de développer quelque chose que j'ai, mais que je n'arrive pas à exprimer. Ok, alors comment définir ce sentiment d'amour? Donc là déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, on comprend que, en fait, j'aime déjà Dieu. Parce que Dieu m'a donné ce cadeau, que de série, je l'aime déjà.
Voilà ce pouvoir.
Mais la seule question, c'est est-ce que je réussis à l'exprimer ou je réussis pas à l'exprimer?
Ok.
Alors, qu'est-ce que... J'ai toujours pas répondu à la question. Qu'est-ce que l'amour? C'est quoi l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Alors, on va expliquer. Moura Zaken te dit, Vainu Mashikata Vazor. Là, on va faire appel au Zohar. Al Pasuk Nafshi Ivitira Balaila. Il y a un verset dans lequel... C'est un verset qui est écrit dans... On va parler après du roi David. Ça, c'est un verset qui est écrit dans Isaïe. Et il dit comme ça. Nafshi ivitira balaila. Mon âme, je te désire, je te désire à toi Dieu, la nuit. Mon âme, je te désire la nuit. Donc apparemment, on parle d'un sentiment. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Il dit, Nafshi ivitira, par mon âme, ivitira, je te désire la nuit.
Pourquoi la nuit?
Quel rapport à la nuit? Quel rapport à la nuit maintenant? Quand tu parles d'amour à la nuit, quel rapport à la nuit? Prends la nuit. Alors, non, qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit la chose suivante. Yachim le kutchabrichu. Qu'est-ce que le Zohar explique ce verset d'Isaïe? Et vous allez voir que le Zohar va nous donner une explication très claire, concrète, qu'on pourra comparer à notre vie de tous les jours. Diyarim le kutchabrichu, je suis au milieu de la page 294. Regardez les mots, c'est vraiment extraordinaire. Diyarim le kutchabrichu, rimuda de nafshaverucha. Il aimera Dieu d'un amour de l'âme et de l'esprit. Oui, mais c'est quoi l'amour? Kema deidabku ilen begufa. De la même façon que l'âme et l'esprit sont attachés au corps, vegufa rachimlon, et que le corps les aime. C'est quoi cette réponse? Donc le Zohar te donne une piste qu'il faut qu'on explore tout de suite. Le Zohar te dit, comment on aime Dieu? Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, j'aime Dieu comme je m'aime moi-même. Je crois que c'est vous qui avez dit ça. Et c'est la piste du Zohar, ça.
Moi, c'est ma piste à moi. C'est ça. Non, mais tu veux dire comme...
Attendez, on va expliquer. C'est ce que dit le Zohar. Le Zohar te dit, ne cherche pas ce que tu connais pas. Le Zohar te dit, cherche ce que tu connais. Moi. Nafshi, mon âme, donc je parle de moi. Ivitira, je te désire, balayla. Alors le Zohar dit, on va arriver à la nuit, on va expliquer ce que c'est la nuit, quel rapport avec la nuit. Déjà, le Zohar te dit la chose suivante. Il te dit, tu aimes Dieu avec ton âme, avec ton esprit, de la même façon que ton corps aime ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Zé, Shekatou, Nafshi, Vitira. Là, avec ça, on va comprendre ce qui veut dire mon âme, je te désire. Kelomar, ça veut dire Mipne, Sheata, Hashem, Nafshi, Vichaye, Amitim. Comme Dieu est mon âme et ma véritable vie. L'écart, Vitira, c'est pour ça que je te désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez que Mamash a une explication extraordinaire. Pirouche, ça veut dire Shani, Mit, Ave, Veta, Ev, Lecha. J'ai envie et j'ai soif de toi, Dieu, qui Adam amit avel chaye nafsho, comme un homme qui désire la vie de son âme. Ça veut dire quoi? C'est pas des mots compliqués, c'est très simple. Imaginez un jour de jeûne.
De jeûne.
Jeûne. Vous n'avez pas mangé toute la journée. Qu'est-ce que vous sentez à la fin de la journée?
Fatigue.
Pas seulement fatigue.
L'envie d'en boire.
Vous avez envie. Vous sentez que vous n'êtes pas bien. Et vous avez envie de retrouver votre bien-être. Vous avez envie de retrouver votre esprit. Vous sentez que votre esprit n'est plus là. Votre corps est fatigué. Donc, comme votre corps est fatigué, votre esprit n'est plus là. Votre esprit est fatigué. Votre esprit, il n'est pas là. Vous avez mal à la tête. Vous n'êtes pas bien. Et c'est pas seulement que tu manges parce que techniquement, tu dois manger comme une machine. Qu'une machine, eh ben, comme une voiture, qu'une fois qu'elle n'a plus d'essence, il faut mettre l'essence, sinon elle va tomber en panne. C'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est technique, ça. Une voiture n'a pas de sentiment. Une voiture, c'est technique. Une voiture, il n'y a pas d'essence. Tu mets de l'essence, ça marche. Il n'y a plus d'essence, ça marche pas. Mais chez moi, quand j'arrive le soir et que je suis crevé après une journée, que j'ai pas mangé ou que j'ai travaillé très très dur, c'est pas seulement que techniquement je dois aller dormir. Techniquement, je vais me reposer. C'est plus que techniquement. J'ai un sentiment, ça devient un besoin. C'est même plus qu'un besoin, c'est un sentiment. C'est un sentiment que j'ai envie de retrouver. Mon âme, j'ai envie de retrouver mon calme. J'ai envie de retrouver quand je suis faible, je suis fatigué. J'ai envie que mon âme revienne à lui. Alors parfois, ton âme revient à toi en mangeant. Des fois, tu vois une personne, il est pas bien, il prend un carreau de sucre. C'est pas seulement qu'il a pris de l'essence, c'est qu'il a retrouvé son âme. Et l'homme désire retrouver son âme. Ou bien des fois, il va donner tout l'exemple. Des fois, vous rentrez le soir à la maison, vous êtes très fatigué, vous avez hyper mal à la tête. Et tu veux qu'une seule chose. Qu'est-ce que tu veux? Dormir. Et qu'est-ce que tu espères? Non, qu'est-ce que tu espères? Que le lendemain, quand tu te réveilles, tu espères qu'il n'y aura plus ce mal de tête. Tu demandes qu'une chose, tu dis, je veux me débarrasser de ce mal de tête, je veux retrouver mon âme quand je me réveille. Je veux retrouver mon âme. Je veux retrouver le calme. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est technique, ça? T'es fatigué, t'es parti dormir. Non, c'est pas technique du tout. Là, il y a un sentiment, il y a un besoin, il y a un ressenti. Je sens que c'est ma vie, c'est de moi qu'on parle. Quand par exemple, ma femme me dit, je suis fatigué, qu'est-ce que je lui dis? Comme c'est pas moi qui ressens, c'est elle qui ressent, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, tu es fatigué, va dormir. D'accord?
On sent bien.
D'accord? Et j'espère que tu iras mieux demain. Mais ça, c'est quand on analyse les faits. T'es avec moi? Ça, c'est quand on analyse les faits. Quand on analyse, ça veut dire, tu analyses un fait, tu dis, bon, tu as faim, mange. Ça, c'est quand tu parles de quelqu'un d'autre. Ton fils, il dit, papa, j'ai faim. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, bah, t'as faim, mange. C'est-à-dire, j'analyse le fait. Mais quand ça parle de moi, c'est pas seulement je me dis, j'ai faim, j'ai mangé. C'est, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Je mange, je me sens mieux, je veux me sentir mieux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'acte technique, est-ce que j'ai mangé ça ou est-ce que j'ai mangé ça et est-ce que je veux ci. On est carrément dans un ressenti très profond que je sens que je vais mal et j'ai une aspiration profonde à me sentir mieux. Je veux me sentir mieux. Et ça, on le ressent particulièrement quand ça va mal.
Mais là, c'est plus dans l'amour. Hein.
Ah, bien sûr, justement, on va expliquer tout de suite. Alors, ça, c'est la définition du prophète Isaïe. Là, on va voir. Attendez.
Alors, tu as de l'amour pour le bien-être.
L'amour, c'est de l'attirance. Je cherche quelque chose. La crainte, c'est un éloignement. Quand j'ai peur de quelque chose, je m'éloigne. Quand j'aime quelque chose, je m'en approche. D'accord? Quand j'aime, comme j'aime ma vie, c'est qui la personne que vous aimez le plus sur Terre?
Moi.
C'est vous. La personne que j'aime le plus sur Terre, c'est qui? C'est moi. Ah oui. Donc comme je m'aime très fort, quand je sens, non mais c'est pas égoïste, c'est comme ça qu'on a été créé. Quand je sens que je vais mal, j'aspire à une seule chose, j'aspire à retrouver mon bien-être, j'aspire à retrouver ma santé. Et ça, il n'y a pas plus fort que ça. Ça veut dire comme ça. Imaginez par exemple quelqu'un hein, qui a très très mal à la tête. Il va dormir chez lui, il a très très mal à la tête. C'est pas seulement technique, il dit, comment je vais faire demain, comme j'ai mal à la tête, je pourrais pas travailler. Ça, c'est une machine qui réfléchit comme ça. Il dit, bon, on a un problème, j'ai mal à la tête, je suis malade, donc demain je ne peux pas travailler. Donc je vais perdre la productivité. Une machine, elle réfléchit comme ça. Elle réfléchit en fait. Elle réfléchit en productivité. Ça veut dire, je suis fatigué, je ne peux pas produire, comment je vais pouvoir produire? Mais quand moi j'ai mal à la tête, quand je rentre à la maison le soir et que j'ai mal à la tête, je ne suis pas en train de penser comment je vais faire demain pour être productif. Je suis en train de penser, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver mon bien-être? J'en peux plus, j'ai la tête qui va exploser. Pas comment je ferai demain ou après-demain ou qu'est-ce qui va se passer. J'en ai rien à faire ce qui va passer demain. On parle de moi ici, j'aspire à retrouver mon bien-être. Et ça, c'est plus fort que tout. C'est plus fort que mon travail, c'est plus fort que tout, ça. C'est moi, on parle de moi.
Alors, c'est quel côté de...
Alors, attendez, il faut que j'arrive au bout du raisonnement. Non, là, on parle pas de moi, là. C'est moi, on parle de moi. Je parle pas de décision. Je rentre à la maison, je suis pas bien. J'aspire à une chose, je veux aller bien. Et c'est pour ça que c'est le sentiment. Quand tu vas dormir le soir, des fois, t'as très mal à la tête. Et tu te réveilles, je sais pas moi, tu te réveilles 6h, 7h, 8h plus tard, et tu te réveilles, t'as plus mal à la tête, comment tu te sens à ce moment-là? Tu dis... T'as l'impression que t'as...
Tu revis.
T'es heureux comme tout. Dis le Zohar. On va continuer. Parce que n'oubliez pas qu'il faut revenir à l'amour de Dieu. C'est-à-dire que le Zohar te dit, l'amour, c'est un désir. C'est un désir d'avoir quelque chose. Quel désir? Sur quel désir on va se calquer? Sur le désir d'un être humain du bien-être. Le désir du bien-être est le désir le plus puissant qu'il y a en nous. Tout le monde a ça. Même un bébé, il a ça. Même un bébé, il n'a pas besoin de comprendre, il a un désir de bien-être. Ça veut dire que quand il a faim, quand par exemple quelqu'un il a faim, je ne suis pas en train de réfléchir et de calculer, de dire, j'ai faim donc je ne suis pas productif. Je ne pose pas ces questions. J'ai faim, c'est tout.
Donc le bébé, il attend.
Oui, mais je comprends, mais il attend. Mais ça veut dire que ce que je vais expliquer par là, c'est que quand je dis que j'ai faim, ça ne s'analyse pas comme un fait. Que bon, bah alors tu n'as pas de problème, tu as faim, tu n'as pas mangé, on va te donner à manger, tu vas manger et c'est tout. Je ne réfléchis pas comme ça. C'est pas comme ça que je réfléchis. Je dis, j'ai faim, je me sens pas bien. C'est tout, ça s'arrête là. Je vais manger, j'irai mieux. Peut-être, ça passera par la nourriture. Mais je m'arrête pas au fait, c'est, je vais pas bien, c'est tout. Et je veux aller mieux. Ça passera par ça. Je veux aller mieux, je suis pas bien. Véhen, on passe à la page suivante, parce qu'on va expliquer avec la
montre. Quand tu dis j'ai faim, Dieu a créé le truc pour que tu puisses le demander
J'ai pas parlé de Dieu encore.
T'as pas le choix.
J'entends ce que vous dites. J'ai pas parlé de Dieu. Je parle de moi, maintenant.
Il a tout créé pour que tu puisses lui demander.
Mais j'entends.
Si tu m'aimes,
Monsieur Lacoste, j'ai pas parlé de Dieu. Je parle de moi, maintenant. Après, on va parler de Dieu. Parce que c'est le prophète Isaïe qui fait cette démarche. Il dit, pour comprendre comment tu aimes Dieu, il faut comprendre comment tu t'aimes à toi. Et là, tu vas comprendre comment tu dois aimer Dieu. C'est comme ça qu'elle dit. Non, c'est faux. Bien sûr, tout dépend de Dieu.
Mais c'est un mot
qui est trop vaste.
Mais je t'aime pas.
Ça, c'est un mot du prophète Isaïe que le Zohar développe et que le Tanya développe encore plus. Qui te dit, Isaïe te dit, mon âme te désire dans la nuit. On va expliquer après ce que c'est la nuit. Ça veut dire quoi, mon âme? C'est-à-dire que pour comprendre comment j'aime Dieu, il faut comprendre d'abord mon âme, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? La chose la plus forte que je veux, c'est ma vie, c'est mon désir du bien-être. Et quand je suis pas bien, quand je souffre, quand je suis éreinté, comme il dit ici, d'accord? Je veux une seule chose. Je veux aller mieux. C'est pas je veux manger ça. Je veux aller mieux, j'en peux plus. Vehren, pareil, page 295. Que chez où aller chlichon? Quand je vais dormir? Pourquoi tu vas dormir? C'est pas que je dis, bon, ben écoute, voilà, je vais dormir parce qu'il faut aller dormir. On va pas dormir parce qu'il faut aller dormir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais dormir parce que je sens que je dois dormir. Parce que mon corps, il sent qu'il a besoin de dormir. Oui, mais quand tu t'endors pas dans ce cas-là. Pourquoi? Je vais pas dormir parce qu'il faut dormir. Je vais pas dormir quand j'amène ma voiture à la pompe à essence parce qu'elle doit prendre l'essence. Je vais pas dormir parce qu'il faut dormir. Je vais dormir parce que je sens le besoin de dormir. C'est un besoin. J'ai un désir. J'ai un désir de dormir. Je veux dormir. Laissez-moi dormir. Je veux dormir. Je veux me reposer.
Mais dors.
C'est tout. Mais avec Véchafetz, quand je vais dormir, j'ai un seul désir. Quel est mon désir? Chez ta chouve et lave. Non, pas faire 12 heures. Chez ta chouve et lave nafsho que chez Yor Mishnato, je désire que mon âme revienne à moi quand je me réveille de mon sommeil. Je veux que quand je me réveille de mon sommeil, je sens que j'ai récupéré. Ah, j'ai récupéré.
Ah, c'est le
premier état qui avait raison. Attendez.
Non, mais
faut qu'on ait plus que ça. Non, mais attendez, là je parle pas de l'âme divine, là, je parle de l'âme tout court. Je parle de moi. Moi.
Ton âme.
Ça veut dire que là, on est en train de te dire que ton moi il est plus fort que tout. C'est que ton moi, c'est pas technique que tu dis bon ben voilà, j'ai mangé ci et j'ai dormi tant et dans tel lit. C'est pas quantifiable.
Oui, c'est vrai.
C'est pas quantifiable, c'est pas du tout.
Mais comment
ça c'est le sentiment le plus profond.
Tu connais pas, tu vois pas.
Pour l'instant, je parle de vous, M. Benita.
Non, attends,
je parle pas de Dieu.
L'objectif, c'est de revenir à Dieu.
Je suis pas venu à Dieu encore. Laissez-moi arriver à Dieu. Je suis pas arrivé encore. Deux secondes. Ne parle pas parce que j'ai pas parlé. Parlez de vous pour l'instant.
Non, mais enfin, on parle de ça.
Non, je parle pas de ça maintenant.
Comment
j'ai compris, mais pour l'instant, oubliez, excusez-moi de parler comme ça, mais oubliez l'amour de Dieu. Il faut d'abord parler de mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire que je m'aime? Qu'est-ce que ça veut dire que je m'aime?
Oui, c'est ça.
Ça veut dire quoi que je m'aime? Je m'aime, ça veut dire que je veux une seule chose, c'est mon bien-être. Maintenant, mon bien-être, il peut passer par ça, il peut passer par ça, il peut passer par ça. C'est pas la question. Ça change pas grand-chose. Ce que je veux, c'est être bien. Ce que je veux, c'est que mon âme se sente bien. Je veux sentir que je suis bien, le bien-être. Et peut-être certains diront le kiff, mais le kiff, c'est pas un bon terme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut kiffer et ne pas être bien. Tu peux avoir une personne qui va passer des super vacances, des grands hôtels, et des grands restaurants et tout ce qu'il veut. Il kiffe peut-être. Mais il est pas bien. Il est pas bien. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est dans une situation qui est kiffante. Ça veut dire que son corps va peut-être vibrer,
ouais.
Mais il sent que son moi ne profite pas. Il sent que mon bien-être n'est pas là. Et ça s'achète pas avec de l'argent. Ça, tu peux pas l'acheter avec de l'argent. Et des fois, des gens, ils reviennent après les vacances, ils étaient là. Tu leur comment c'était les vacances? Ils disent, voilà. Il a passé les vacances dans l'hôtel 5 étoiles. Il a claqué 20 000 euros, d'accord? Dans les vacances. Il dit, oui, mais je me suis accroché toutes les vacances avec ma femme. Bien, il me dit non. Il me dit toutes les vacances. Ma femme me disait le riz manque un peu de sel. Il n'y a pas assez de trucs. Et le service, il n'est pas arrivé à l'heure pile. Il arrive avec une minute de retard. Il arrive avec une minute d'avance, etc. Bon, les problèmes de riches, d'accord. Ça change pas problème de riches, problème de pauvres. Concrètement, le gars il revient, il est énervé. Il dit comment étaient tes vacances? Il dit mes vacances étaient nulles.
Ah oui.
Donc l'argent n'achète pas le bonheur.
C'est vrai.
L'argent, c'est la vérité. L'argent n'achète pas le bonheur. Hein? Faites très faiblement. C'est faux.
Il pense qu'en changeant, d'endroit, en changeant d'endroit, ça va changer les problèmes. Mais quand tu reviens, le problème, il reste le même. Rien n'a changé. Même t'as claqué 50 000 euros à la semaine. Le problème, il est. Tu reviens avec la même chose. Tu pars avec.
Un pauvre pense, oh, si j'étais riche. D'accord. Et un riche pense, oh, si j'étais plus riche.
Ah oui.
Donc je suis pauvre.
On dit en arabe, pauvre
ou
pauvre blanc.
Ça veut dire quoi?
Oi va voy avec, oi va voy sans.
Sans. Ah ouais.
Attends, il y a
C'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi mon moi? Mon moi, c'est mon bien-être. C'est mon bien-être. Et le bien-être, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui est abstrait, qui est très difficilement, qui est pas quantifiable. On peut pas dire, prends cette pilule, t'auras le bien-être. Ça n'existe pas. C'est simulé, tout ça. Ça marche pas comme ça. Le bien-être, c'est quelque chose, c'est un sentiment de l'âme. Et c'est un sentiment que tout le monde aspire à ça. Les gens veulent le bien-être. Et ils sont malheureux quand ils n'ont pas le bien-être. Quand tu vas dormir le soir, quand tu n'es pas bien, pourquoi tu vas dormir? Parce que tu veux ton bien-être. Ton corps, il cherche le bien-être. Ton corps, il veut que demain, quand tu te réveilles, tu te sens bien. Et quand tu te réveilles le lendemain et que tu as encore mal à la tête, tu n'es pas content. Parce que tu n'as pas ton bien-être. Tu t'es peut-être reposé, ton corps, il est peut-être reposé. Mais tu n'as pas ton bien-être, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il veut te dire ici, c'est que ce qui est de plus profond en moi, c'est mon âme. Et quand je dis mon âme, c'est même pas l'âme divine, c'est l'âme, ça veut dire l'amour que j'ai pour moi-même. Le fait que j'ai un désir de me sentir bien. Bon. Maintenant, on va amener ça par rapport à Dieu. Si je dis maintenant que ma vraie vie, c'est Dieu. Attendez. Donc. De la même façon que j'aspire à vivre. Et que l'envie de vivre est l'envie qui est la plus forte. L'envie de vivre et de bien-être est l'envie qui est la plus forte. Si j'arrive à la conclusion que la véritable vie qui est en moi, c'est Dieu. Donc l'aspiration que j'ai vers Dieu, c'est même pas une aspiration, et là c'est très important ce que je veux dire, c'est pas une aspiration vers quelque chose d'extérieur à moi. C'est pas une aspiration comme je suis attiré vers une femme qui n'est pas moi. La femme, elle est là. Moi, je suis là, et moi, je suis attiré vers elle. Mais quand tu es attiré vers Dieu, c'est comme si tu es attiré vers toi-même, parce que tu es attiré vers ta vie. Quand tu es attiré vers toi-même, quand tu as le désir d'être en bonne santé, le désir de bien-être, est-ce que ça veut dire que tu es attiré vers toi? C'est pas vers toi, c'est dans toi. C'est en moi que je sens, que je désire, j'aspire au bien-être. L'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est chercher en soi un niveau dans lequel je comprends que mon bien-être, c'est quand je fais la Torah et les mitzvot. Ça, il faut qu'on définisse, parce que c'est pas simple du tout, là, ce qu'on est en train de dire. Jusqu'à maintenant, on croyait que c'est facile. Il y a moi, il y a Dieu, je lui fais plaisir, il me fait plaisir, et basta, on est tranquille. On est un partout, tu vois. Je te fais kiffer, tu me fais kiffer, on est bien. L'amour à Zakatouli, c'est pas de l'amour, ça. C'est des services. Tu rends service, tu rends service. C'est rien, ça. C'est pas rien, hein.
Tu aimeras Dieu comme toi-même, alors.
C'est pas
sans
comme
faire de moi, jeu de mots.
Oui, j'ai compris. C'est pas comme toi-même. En toi-même.
Tu aimeras Dieu en toi.
Oui, bah non, non. Je suis pas d'accord avec
on va développer, attendez.
Mais non, par rapport à ce que vous développez, non. Comme moi-même. Puisque moi, je m'aime.
Pourquoi je m'aime? Pourquoi je m'aime?
Je cherche.
Parce que j'aime ma vie. Je veux vivre. Pourquoi je suis en recherche de bien-être? Parce que la chose la plus forte que j'aime, c'est quoi? C'est ma vie.
Non.
Bien sûr.
Mais non, c'est pas vrai, sans
parler. Attendez.
Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie.
Oui.
Il y a des gens qui s'aiment pas.
Oui.
Il y a des gens qui mangent et qui dorment et qui se réveillent et qui font la gueule toute la journée.
Mais c'est pas notre cas.
C'est leur vie.
Mais c'est un problème.
Et ils sont pas contents.
Oui, mais justement. Et pourquoi ils sont pas contents?
Parce qu'ils s'aiment pas.
Non, non, justement. Pourquoi ils sont pas contents? Parce que leur âme, elle sent qu'il manque quelque chose. Donc c'est ça. C'est la même chose. Pourtant, tu vois des gens, moi ça m'arrive très souvent de parler avec des gens, ils disent, monsieur le rabbin, je suis malheureux. Tu parles avec lui, tu vois qu'il vit très bien. Mais il est malheureux. Pourquoi il est malheureux? Parce qu'il cherche quelque chose.
Déjà, il a libre arbitre.
Hein? Oui, parce qu'il cherche quelque chose. Donc ça veut dire.
Oui. Tu dis pas. Rachel, parce qu'on dit que c'est nous, Dieu.
Non, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que de la même façon que j'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi je m'aime. J'ai pas besoin de m'expliquer le soir quand je vais dormir et je suis crevé pourquoi je dois dormir.
Ah oui, d'accord, c'est ignorant.
C'est pas le soir que je vais dormir, je dis bon, bah écoute, alors voilà, j'ai fait un calcul que je suis fatigué. Ah, donc quand on est fatigué, j'ai réfléchi, oui, je me rappelle que quand on est fatigué, il faut aller dormir. Il faudrait aller dormir. C'est même pas, y a pas de calcul ici. C'est automatique. Tu comprends? Quand je fais une mitzvah, par exemple, là, je dois réfléchir. Je dis bon, attends, Dieu, il veut que je mette le tefilin. Mais quand j'ai faim, quand je suis après un jeûne ou que j'ai très faim, je suis pas en train de réfléchir. J'ai faim, donc je devrais manger. Ah bah tiens, je vais manger. Ça marche pas comme ça. J'ai faim, je mange. C'est tout. C'est un instinct. C'est plus fort que moi. C'est quelque chose qui... C'est mon âme qui attire vers quelque chose. Au point que j'ai même pas besoin de me l'expliquer. Au point que même un bébé Même un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Quel est cet instinct? Pourquoi le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il pleure? Pourquoi il pleure? Vous savez pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure?
Non.
Parce qu'il est plus cocooning, il est plus. Il veut
non, c'est écrit, vous savez pourquoi? Parce que quand il est dans le ventre de sa mère, il respire pas par ses narines.
Ah oui, c'est,
il respire par le nombril, bien sûr, le cordon ombilical. D'accord? Et quand il sort du ventre de sa mère, automatiquement, c'est un miracle qu'Hachem fait, automatiquement, ses narines, sa bouche commence à fonctionner. Donc il a peur parce que c'est un système qu'il connaît pas encore. Mais pourquoi il commence à respirer? Et ça, c'est une question qui est posée en Chassidout. Pourquoi le bébé commence à respirer? Qui lui a appris à respirer?
Oui.
Qui l'a appris au bébé à respirer? C'est même pas un bébé, même un animal. Qui lui a appris à respirer? Quand il est dans le ventre de sa mère lui a envoyé du souffle par un tuyau. Intraveineuse. Enfin, elle l'a envoyé. Donc il pose pas de questions. Mais qui lui a appris quand il sort du ventre de sa mère que maintenant il doit respirer?
C'est un instinct.
Quand il est dans le ventre de sa mère, il fait rien le bébé. On fait tout pour lui. On respire pour lui, on mange pour lui, on dort pour lui. On le conditionne. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, il commence à respirer. Au point que s'il respire dans les secondes qui suivent, c'est très grave. Les secondes qui suivent après l'accouchement, d'accord, sont extrêmement décisives. Ça veut dire que le Chasvei Shalom, s'il respire pas à ce moment-là, tout de suite, c'est Chasvei Shalom. Pourquoi? Qui lui a appris à respirer? Vous savez qu'il respire grâce à doute? Il n'a pas besoin d'apprendre à respirer. C'est inné. Pourquoi c'est inné? Parce que la chose la plus forte qu'il y a chez une personne, c'est qu'il veut vivre. Je veux vivre. Donc, dans l'instinct de survie, je veux vivre. Donc, dès qu'on lui coupe le cordon et qu'il sent qu'il vit plus, il va mourir. Il sent qu'il vit plus. Instinctivement, il se met à respirer. Il n'a pas besoin d'expliquer. Ah, je réfléchis. Donc, voilà. Donc, ça doit passer par les narines. Ah, bah, tiens, c'est arrivé là. Ah, ça passe par là. Il n'a pas besoin de réfléchir. C'est tellement inné en lui. Que automatiquement il commence à réfléchir. Et de la même façon. Exactement. C'est la première, c'est parce que là c'est nouveau. Mais il n'a pas besoin d'expliquer ça. C'est automatique qu'il commence à respirer. C'est automatique parce pourquoi il se met à respirer? Parce qu'il a envie de vivre. L'envie de vivre, c'est l'envie la plus forte qu'a chez une personne. Il n'y a rien de plus fort que ça. L'envie de vivre. C'est de la même façon. Quand le bébé après il se met à pleurer parce qu'il a faim, qui lui a appris à manger? Comment on mange? Qui t'a appris à manger? Qui t'a appris comment je parle la bouche? Parce qu'il sent qu'il a faim, il sent qu'il a besoin de manger. Il n'a pas un cerveau évolué, il peut pas s'expliquer que pour manger ça passe par la bouche. Il n'a pas besoin de s'expliquer. C'est tellement inné que c'est automatique. Il n'a pas besoin de se poser des questions. Et ben si vous voulez, ce que la Gemara Zaken veut nous amener ici, il veut expliquer que l'amour de Dieu, ça devrait être ça, mais il faut qu'on explique, attention. Ça veut dire qu'à un moment, on devrait atteindre un niveau dans lequel servir Dieu et aimer Dieu, ça devrait être presque un automatisme. Et on va expliquer comment on peut arriver à ça.
C'est impossible.
C'est pas impossible. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure, ça fait 20 minutes, j'ai expliqué qu'on a déjà ça en nous. Le problème, c'est qu'on s'en sert pas.
Alors c'est peut-être pour ça qu'on a de la reconnaissance ou de l'amour pour Dieu. Dès qu'on sort, on a changé de statut, on était nourri par un tuyau et d'un coup, subitement, on respire comme tu dis, tac, mais c'est grâce à qui?
Pourquoi tu pries? Exactement. C'est comme, je donne un exemple.
Tu dois remercier ton créateur quelque part.
Tout à l'heure, on va faire Arvit.
C'est d'amour.
D'accord? Tout à l'heure, on va faire un vite. Avec Mignane, je pense. Bon, tout à l'heure, pas Mignane. Hein. Bon. Non, tout à l'heure, pas Mignane.
Ah, bon, il n'y a pas
Mignane. Il manque de. Alors.
C'est la reprise.
D'accord? Ouais, c'est la reprise.
2018.
Alors, elle. Donc, regardez. Tout à l'heure, on va faire Mignane. On va faire un vite. On va demander des choses à Dieu. Bon. Maintenant, des fois, j'ai rien de particulier à demander à Dieu. J'ai fait Mincha tout à l'heure. Là, j'ai peut-être rien de particulier à demander. Je demande ce que j'ai demandé. Pourquoi je prie? Pourquoi je vis prie? Alors, tu veux dire, il prie par routine, parce qu'on l'a appris quand il était petit à prier. Mais le niveau auquel je dois arriver, c'est que je prie parce que je prie. C'est de la même façon, sinon, pourquoi tu manges? C'est une question que je ne me suis jamais posée. Est-ce que vous avez posé la question, pourquoi je mange? Je pose la question, qu'est-ce que je mange? Mais pas pourquoi je mange. Parce que c'est évident que je dois manger. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est mon instinct de vie et de bien-être me dit, tu dois manger. J'ai même pas besoin de me convaincre, c'est automatique. C'est automatique que j'ai envie de manger. Eh bien, dites-vous que le niveau auquel on peut atteindre ce niveau-là, c'est un niveau qui n'est pas... tout à l'heure, quand tu vas aller prier, ne te pose pas la question pourquoi tu pries. Tu pries parce que c'est automatique. Un juif, il prie, c'est tout. Un juif, il prie. Un juif, il mange. Un juif, il dort. Un juif, il boit. Un juif, il prie. C'est tout, il prie. Pourquoi il prie? Parce qu'il prie. Des fois, il prie parce qu'il a besoin de demander quelque chose. Des fois, il prie parce qu'il a envie de parler à Dieu. Des fois, il prie parce qu'il prie. Pourquoi tu manges? Parce que je mange, c'est tout. Il n'y a pas de question. C'est une question que je ne me pose pas. Et c'est ce que veut te dire le Morazaken. Le Morazaken te dit que l'amour de Dieu qu'on vise, c'est le Zohar, d'après le Zohar, c'est ça l'amour de Dieu, c'est un amour qui est extrêmement profond au fond de moi, que j'ai déjà, que j'ai déjà. J'ai pas besoin de m'éduquer à aimer Dieu, j'aime déjà Dieu, sauf que je n'arrive pas à exprimer. Donc on va me donner des outils pour exprimer ça. Et on le sent ça. Quand tu sens par exemple t'es un jour de Kippour, même pas qu'un jour de Kippour, quand t'es un Shabbat, t'es assis à la synagogue, t'écoutes un cours de Torah, t'as fait une bonne fila, tu sens que t'as une sérénité. Ça, c'est un moment dans lequel tu sens que t'es proche d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que t'as besoin de te convaincre, de te dire j'aime le Shabbat parce que c'est ça, parce qu'il y a ça? J'ai plus besoin de me convaincre. Ça fait partie de moi. Il faut qu'on l'explique. La Gemara Zaken te dit ici, le nefesh, c'est ce qu'il y a de plus profond dans la personne. Et c'est ça la profondeur. Ça, Isaïe, il a résumé ça en trois mots. Nafshi ivitira balayla. Mon âme, je te désire dans la nuit. Alors pour l'instant, on a expliqué mon âme, te désire. On n'a pas expliqué le mot la nuit. Mon âme, te désire, ça veut dire quoi? De la même façon que mon âme, moi, je m'aime moi-même, et que la seule chose que je recherche, c'est mon bien-être, de la même façon, je te désire parce que je sais que tu es ma vie. Maintenant, il faut expliquer c'est quoi la nuit, quel rapport à la nuit? Bon, oui. Non, c'est la nuit, mais on n'aime pas Dieu le jour.
Après, il parle de la lumière de la nuit. La nuit, il fait nuit.
Oui, bon, on va expliquer. La nuit, on va expliquer tout de suite. D'accord. Ah oui. On va voir. Car, pareil, on va prendre la page 295. De la même façon que quand j'ai faim, je veux manger. C'est un désir inné que j'ai en moi. Quand je suis fatigué, je veux récupérer. Pas je dois récupérer, je veux récupérer. Car, pareil, ani mit ave. De la même façon, j'ai envie. Vetaev, et j'ai soif. Les or ensof baruchu, de la lumière de ensof, de la lumière de l'infini. Chaye achaim a amitiim, la source de la véritable vie, l'am shiro bekirbi, pour la faire entrer dans moi, on va expliquer, hein, vous inquiétez pas, à l'aider Eseka Torah, par l'étude de la Torah, beakitsi mishnati balayla, c'est ce que dit le Zohar, on est plus à ce niveau-là, mais lorsque je vais me réveiller de mon sommeil pendant la nuit, deoraita avekut shabrich ukulachad, pour étudier la Torah évidemment, deoraita avekut shabrich ukulachad, parce que la Torah et Dieu, c'est une seule chose.
Ça veut dire que si tu ne te lèves pas le matin,
on va voir. Que moche que tu vas voir, Charles. On va voir. Je ne parle pas de nuit maintenant, parce qu'on ne se réveille plus tellement la nuit.
Si tu ne te lèves pas le matin, tu ne vas pas prier.
Je ne vais pas parler de lui. Je ne parle pas de nuit, je ne parle pas d'horaire.
C'est ce qu'il demande.
Non, là, c'est un texte que je leur explique pour te dire ce qu'une personne ressent lorsqu'il se lève la nuit pour faire Tikkun Ratzot. Ce qu'il va dire tout de suite. Kmosh kata va zohar sham, comme dit le Zohar là-bas. Mais on va expliquer aujourd'hui. Debae barnash perichimuta de kuchabrihu. Qu'en vertu de l'amour pour Dieu, un homme devrait, le mikam bechol laila, se lever chaque nuit. Le ishtadla befulchane, pour s'adonner au service de Dieu, at safra jusqu'au matin. Et que c'est pas un effort. C'est pas tu dis, oh, j'attends que la nuit termine. Ah, oh, j'en peux plus. Ah, oh, comment on va faire? Oh, c'est impossible. D'accord? On te dit que ça, c'est une envie. C'est une envie qu'il y a au fond de nous. Seulement, on n'arrive pas à la développer. Vous savez, le rabbi donne un exemple pour illustrer ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est une vie profonde que j'ai au fond de moi? Un juif, il peut être heureux que s'il fait des mitzvot. Attendez. Il peut se comporter comme un kiffer. Sans mitzvot. Il peut se comporter et faire des sourires, mais un kiff. Comme tout à l'heure, j'ai pris le prigat et j'ai dit, j'ai fait un sourire, mais c'est que je l'aimais, alors je ne l'aime pas. Ça veut dire que quand tu vois une personne extérieurement, tu peux croire qu'il a son bien-être,
ah oui.
il a une belle maison, une belle voiture, un beau travail, une belle femme, tout ce que tu veux, l'argent, tout ce que tu veux. Toi, il te donne
l'impression.
Il te donne une impression de.
Mais au fond de lui-même.
D'accord. Mais au fond de lui-même. Mais ça, il ne te le montrera pas. D'accord. Bien sûr qu'il le sait. Il sait mieux que tout le monde.
Ah oui.
Au fond de lui-même, il est malheureux. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Parce que le rabbi dit comme ça. C'est le Zohar qui dit ça. Un juif ne peut pas être heureux s'il n'a pas la Torah et la Mitzvot. La seule chose qui peut assouvir un juif, c'est la Torah et la Mitzvot. C'est très fort ce qu'on est en train de dire. Je vais expliquer ce que.
Oui, c'est vrai, mais.
Imaginez par exemple quelqu'un qui a un désir. J'ai un désir maintenant, je veux du coca.
Il n'y en a pas.
Je veux du coca, il n'y en a pas. J'ai un désir, je veux du coca. Tu me sers du Perrier, tu me sers du Schnapps, tu me sers tout ce que tu veux. Je veux pas, j'aime pas. Tu m'as donné, c'est bon, ça m'a désaltéré. Mais j'ai pas eu ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Maintenant, on va parler de choses beaucoup plus profondes, évidemment. Quand tu parles d'un juif, un non-juif, pour être heureux, ce qu'il a besoin, c'est la croyance en Dieu. Et l'Elohim Noachit.
Vraiment?
Oui. Si, et les sept lois de Mohrid. Donc, croire en Dieu. Un non-juif qui croit en Dieu, il sent un certain équilibre dans sa vie, il est heureux. Un juif qui ne fait pas les mitzvot, qui ne met pas les tefillines, qui ne fait pas la cacherose, etc., ne peut pas être heureux. Et je vous donne un exemple très simple. Ça, c'est une lettre du rabbi qui expliquait à quelqu'un qui a dit « Prends, me laisse pas me marier avec une goya. » C'est vrai, finalement, qu'est-ce qu'elle a ? Les juifs, elles sont compliquées, etc. Laisse-moi me marier avec une goya. D'accord ? Elle n'est pas compliquée, elle est belle, elle a de l'argent, et elle me laisse tranquille. Mais que demander de plus ?
Le paradis.
D'accord ? C'est ce que les jeunes disent, pour d'accord ? Hein ? Seulement, il faut savoir la chose suivante. D'abord, c'est faux, mais il faut savoir la chose suivante. Il faut savoir quelque chose de très simple. Le rabbi explique, il dit, un juif ne peut pas être heureux avec une non-juive. C'est pas parce que la non-juive, elle est pas bien. Ça peut être une fille très très bien. Une fille qui a des valeurs. Une fille qui est une bonne goya. Quelqu'un de bien, croyant en Dieu, qui a des valeurs, etc. Quelqu'un de vraiment respectueux, qui a fait beaucoup de bénévolat, qui fait beaucoup de bienfaisance, quelqu'un de bien. Oui. Mais toi, tu peux pas être heureux avec elle, tu peux pas avoir ton bien-être avec elle. Pourquoi ? Parce que t'es pas conçu pour être avec elle. Alors, Rabbi donne un exemple très simple. Et c'est comme si, par exemple, vous allez au zoo. Vous allez au zoo. Vous voyez, là-bas, il y a un lion. D'accord ? Vous allez au zoo, vous voyez un aigle. Il est malheureux, il est pas bien. Il est pas bien. Il est malheureux. Il est malheureux, il est pas bien. Pourtant, il est nourri, logé, blanchi. Je comprends pas. On va regarder dans ta tête, monsieur lion. Lorsque tu es dans la forêt, tu te bats pour manger. Tu galères peut-être pas, mais tu te bats. Il faut te battre, il faut cogner, etc. Là, on t'es ici. T'as trois vétérinaires qui s'occupent de toi, ils sont à tes petits soins. Tu t'es blessé, t'as une petite égratignure, ils sont là, ils te guérissent. Ils te donnent à manger, les plats que tu veux, la quantité que tu veux, les vitamines que tu veux, tout ce que tu veux, et t'as même des gens qui viennent t'applaudir. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Mais tu le vois, il est malheureux. Il maigrit, ou bien on le gave, bon, et il meurt. Il est pas bien. Pourquoi il est pas bien? Parce que c'est très simple. Parce que qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de liberté. Pour son bien-être, un animal a besoin de liberté. Quand tu l'enfermes dans un zoo, tu le prives de sa liberté. Et la liberté, c'est irremplaçable. Tu peux pas remplacer la liberté de quelqu'un. Tu peux lui donner tout l'or et l'argent du monde. Tu peux lui donner tous les vétérinaires et toute la nourriture et tout ce que tu veux, tous les soins. Tu peux pas remplacer une liberté. Alors c'est quoi le lien ? Pourquoi ? Parce que la liberté est un besoin profond qui est irremplaçable. La liberté. Dit le rabbi de la même façon. Un juif, il a un besoin profond au fond de lui de s'attacher à Dieu. De faire les mitzvot. Et il n'y a rien qui peut remplacer ce désir. Rien au monde. C'est pour ça qu'un juif qui ne fait pas les mitzvot, il ne peut pas être heureux, il ne peut pas avoir son bien-être. Peut-être qu'il ne le sait pas, David a dit un point très juste. Des fois, il a grandi comme ça, il a vu ses parents comme ça, ses grands-parents comme ça, donc il ne sait même pas qu'il est dans la zut. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas qu'il vit mal.
Surtout, souvent, ils ont de l'argent, ils sont
Par rapport à la Goya. Par rapport à la Goya, c'est la même chose. Par rapport à la Goya, t'en as qui vont avoir le cran. De t'admettre, de t'avouer, des fois on parle avec des gens, de te dire après, tu avais raison, mais maintenant c'est trop tard, maintenant je peux plus, il y a des gosses, etc., mais c'est trop tard. Mais t'en as qui oseront pas te le dire, ils te le diront pas. Par fierté envers les autres, par fierté envers eux-mêmes, ils le diront pas. Mais au fond d'eux, ils peuvent pas être heureux. C'est pas moi qui dis, c'est le rabbi qui dit. Il connaît les âmes, il te dit, un juif ne peut pas être heureux avec une goya, c'est pas possible. Il peut se comporter comme quelqu'un d'heureux. Il peut simuler être quelqu'un d'heureux. Il peut vivre comme quelqu'un d'heureux. Mais il ne peut pas être heureux.
Mais il peut être heureux avec une juive.
Sans faire mitzvot.
Déjà par rapport à ça, oui, il peut être heureux d'être marié avec une juive. Après, il y a d'autres choses, il y a d'autres mitzvot, ça ne s'arrête pas là. Mais un juif, pour son bien-être, il a besoin de faire des mitzvot. Donc là, vous voyez, en vérité, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Nous, on croit que c'est compliqué, mais est-ce que j'ai besoin de me convaincre que je dois manger ? Non, c'est automatique. Ça fait partie. C'est un besoin profond. Il te dit, sache que faire les mitzvot, c'est un besoin profond. Je vais illustrer ça avec une histoire de la Gemara.
Si c'est un besoin profond inné, pas mitzvot, pourquoi ça ne ressort pas de façon autant inné que le fait de manger ou de dormir ?
Parce qu'on a un yetzara, j'ai un yetzara, tu as un yetzara, nous avons un yetzara, qui fait en sorte que ce sentiment ne ressort pas. Mais il est là. Il peut pas être personne pour l'enlever.
Champion.
Bien sûr qu'on voit ce sentiment, on le voit parfois, bien sûr qu'on le voit parfois.
On voit pas complètement que c'est inné qu'on a besoin.
Je te donne un exemple. Tu as par exemple un pauvre qui vient te même pas un pauvre, quelqu'un qui est dans le besoin qui vient te demander la tzedaka. Tu vas l'aider, bien sûr que tu l'aides. Un juif il aide. Pourquoi tu vas l'aider? Alors, normalement, l'être humain qui est égoïste, c'est comme ça qu'un goy réfléchit. Mais c'est pas anormal. C'est comme ça qu'un homme réfléchit. Comment il réfléchit? Il dit, qu'est-ce que je vais avoir de ça? Pourquoi tu veux que je donne mon argent? C'est mon argent, pourquoi tu veux que je le donne? Mais un juif, il peut arriver à un niveau dans lequel il réfléchit pas comme ça. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je lui donne, c'est tout. Pourquoi tu donnes? Il n'y a pas pourquoi. Je me pose pas la question. C'est automatique. Je vois quelqu'un qui est en galère, je l'aide. C'est normal que je l'aide. Il n'y a pas de question qui se pose. C'est comme de la même façon que j'ai faim, je mange. Quelqu'un en galère, je l'aide. On peut arriver dans certaines zones de notre vie à avoir cette forme. C'est même pas un automatisme. C'est inné. C'est en moi. Et on a ça en nous. Un juif, il a ça en lui. Comment ça se fait qu'on en a parlé Shabbat? Comment ça se fait qu'un juif, naturellement, dès qu'il a un problème, il se lève vers Dieu, il prie? On a parlé du voleur. Rappelez Shabbat, on a parlé du voleur. On a dit que le voleur, avant de commettre son larcin, il demande à Dieu de l'aider. Pourquoi? Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il sait que quand, au fond de lui, il croit en Dieu. Au fond de lui, il sait que quand il y a un problème, il y a une adresse. Seulement, le problème, c'est que le Tzara s'est arrangé pour l'entrelouper, pour le dire, bon, il y a un Dieu, mais bon, tu comprends, Dieu ferme les yeux, le Tzara est embrouillé. Mais au fond de toi, tu sais que quand il y a une galère, il y a un Dieu, il y a une adresse. C'est tout. J'ai un père dans les cieux, il est là, et je sais à qui m'adresser. Et j'ai pas besoin de me convaincre de ça. C'est pas, je dis, bon, attends, je réfléchis, alors on a fait les statistiques, il a aidé un tel, il a aidé un tel, et mes parents, et mes grands-parents, et Moïse, donc certainement qui pourrait peut-être. Tu rends pas ce calcul. C'est automatique. Je sais qu'il y a une adresse. Seulement, il y a Yetzara qui peut être là pour m'embêter un petit peu, pour dire, attends, est-ce que t'es sûr qu'il est là? Ok, Yetzara, il peut travailler, c'est pas un problème. Mais au fond de moi, je crois déjà. De la même façon que je sais que je dois manger, de la même façon, je sais que, je sais, au fond de moi, j'aime Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar, il te dit, c'est la raison, c'est le Zohar te dit, un homme qui se réveille la nuit pour étudier la Torah, parce qu'à l'époque, surtout, on se dit, contre Hassat, aujourd'hui, on le fait moins. Tu contre Hassat, c'est les gens qui se réveillent la nuit pour étudier la Torah. C'est-à-dire, vous allez dormir un peu tôt, enfin, un peu tôt, pas vraiment tôt, en vérité. Tu en mets quelques heures, tu te réveilles à Khatsot, Khatsot c'est la moitié de la nuit, une heure et demie comme ça, et ils étudient la Torah jusqu'au matin. Et après le matin, ils allaient faire la Tfila. Alors, mets-toi dans la tête d'une personne comme ça. Moi j'ai envie de dire une personne comme ça, tu veux dire, tu sais, c'est comme, quand t'es de corvée, t'es un service militaire, t'es de corvée la nuit, t'attends qu'une chose, c'est que la nuit se termine. Ça te casse les pieds. Le soir, tu te dis non. Un juif, il ne réfléchit pas comme ça. Un juif, quand il est à la prière, il ne regarde pas à quelle heure ça termine. Il vibre, il est là, il est bien. C'est comme quand tu vas au repas, tu poses pas la question à quelle heure il finit le repas. Je suis au repas, je mange maintenant. Je mange maintenant. Quand tu t'assois pour manger, tu dis pas bon alors à quelle heure on termine? Je mange maintenant, qu'est-ce que tu me prends la tête? Quand tu vas dormir, tu dis pas à quelle heure je me réveille. Bien sûr, tu veux mettre un réveil parce qu'il faut se réveiller. Mais je dors. C'est tout, je suis pas en train de réfléchir. Alors pourquoi je dormis? Je dors. De la même façon, quand je fais une mitzvah, je me pose pas la question, quand je me réveille la nuit, je me pose pas la question pourquoi je fais la mitzvah. Je fais la mitzvah, c'est tout. Je me réveille la nuit, je vais étudier la Torah. Alors, pour appliquer ça à notre vie tous les jours, parce qu'aujourd'hui, on fait plus vraiment ça, je fais la mitzvah. Et
c'est plus de l'amour que de la crainte.
Non, c'est de l'amour, ça.
C'est vraiment de l'amour.
Bien sûr, c'est pas de la crainte, c'est pas de la peur, j'ai pas peur. Pourquoi vous mangez?
Je me dis bon,
attendez.
Si je fais pas comme ça,
mais c'est ce que dit Isaïe. Pourquoi tu manges? Tu manges parce que t'as peur de mourir? Non, mais deux secondes. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu vas dormir? Non, mais attendez. Écoutez ce que j'ai envie de dire. Pourquoi tu manges? Parce que t'as peur de mourir? Parce que t'as peur de tomber en panne? Parce que tu mets de l'essence, que t'as peur de tomber en panne? Non. Quand je mange pas parce que j'ai peur. Je mange parce que j'aime, parce que j'ai un désir, parce que c'est automatique. C'est en moi. Excusez-moi. J'ai pas besoin de me convaincre par la peur. Je peux me dire, attention, si je mange pas, je vais mourir. J'ai pas besoin d'en rentrer dedans. J'aime.
Je pense même pas.
Excusez-moi, pourquoi vous opposez ou vous mettez en parallèle, excusez-moi, des besoins physiologiques, excusez-moi,
hein,
parce que pour moi, pour l'instant, depuis tout à l'heure, le fait de manger, d'avoir des sensations de bien-être ou pas, c'est un besoin physiologique. Et le besoin spirituel, où j'ai besoin de me raccorder au divin, où j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, avec Dieu, etc. Pourquoi vous mélangez? Pour moi, c'est deux choses bien distinctes.
Je vais expliquer. La réponse est très simple. Parce que le besoin physiologique veut dire qu'en vérité, je recherche la vie. D'accord? C'est comme le bébé. C'est-à-dire qu'en vérité, depuis le bébé qu'il naît, on a dit, l'instinct le plus fort qu'il y a chez un homme, c'est quoi? C'est la volonté de vivre. Vivre, ça veut dire avoir le bien-être. Vivre! Je veux vivre! J'ai envie de vivre. D'accord? Attendez. Okay. Donc, tous les besoins, la base des besoins physiologiques, c'est quoi? C'est l'envie de vivre.
D'accord.
Ok. Maintenant, si je sais maintenant, et mon âme le sait au fond, que la vraie source de ma vie, c'est Dieu. Donc si je veux vivre, ça passe par Dieu.
Non mais attendez.
Ça,
t'as pas le choix, quoi.
Non, mais j'ai pas le choix, exactement. J'ai pas le choix.
Donc ça veut dire que vivre,
même si, un juif qui va dire, je vais arrêter d'être juif. Il m'a dit, je vais arrêter d'être juif. J'en ai marre d'avoir des remords. Laissez-moi tranquille. Je vais devenir goy, Ras Shalom. Tu peux pas. C'est comme si c'est quelqu'un qui va dire, j'ai envie d'arrêter d'avoir faim. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas arrêter d'avoir faim. Tant que t'es vivant, t'auras faim. C'est pas possible.
Excusez-moi, il y a des... Parce que...
Pourquoi ?
Non, mais vous me décrivez des gens... Enfin, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois. Là, on est en train de parler de gens... Là, on est en 2018. La grande majorité des juifs dans le monde,
oui.
Les gens que vous décrivez, à part dans les yeshivas ou dans les yeshivotes, moi, je ne me reconnais pas dans ces gens-là. Et je pense que là, je vois qu'il est à moitié endormi. Lui, il est en train de cligner des yeux. Enfin, bref. Là, c'est en train de... Bon, des gens de ce niveau-là qui se lèvent la nuit, qui...
Vous parlez pour vous, hein, parlez pas pour les autres.
Non, mais ça veut dire des gens aussi exceptionnels, moi, personnellement...
Mais encore une fois, je parle pas... Là, je suis pas en train de dire... J'entends votre question. Je suis pas en train de... Non, mais je réponds à la question. Une très bonne question, ce qu'elle a posée. Je suis pas en train de dire qu'il faut se lever la nuit.
Non.
C'est ce que je disais tout à l'heure à Michael. Je disais que chacun de nous, il y a des zones dans notre vie dans lesquelles on est comme ça. Il y a des zones dans notre vie dans lesquelles le Yitzhara, il nous empêche d'être comme ça. Mais il y a des mitzvot qu'on fait comme ça naturellement, sans besoin de me convaincre. Je le fais parce que je sens que je dois le faire, c'est tout. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est vivre. Non.
C'est ça aussi.
Excusez-moi, il y a des gens qui ont une vie physiologique. Excusez-moi, je vais reprendre ce terme-là, physiologique. C'est les gens qui vont faire du sport, qui vont rechercher les sensations sportives, les sensations de bien-être, qui vont mesurer leur machin physique, qui vont prendre des vitamines, qui ont une vie spirituelle ou qui se posent pas de questions et qui vivent très bien.
Qu'est-ce que vous en savez?
Il y a plein de gens comme ça qui ne se posent pas de questions.
Ce que je vous demande au début du cours. Qu'est-ce que vous en savez comment ils ressentent?
Comment?
Qu'est-ce que vous savez comment ils ressentent?
Et qu'est-ce que vous en savez que les autres ils ressentent?
Si je vous pose la question à vous, comment vous vous sentez?
Comment?
Vous vous sentez bien?
Au moment où je vous parle, ouais, ça va.
D'accord.
Ça
dure. Il n'y a aucun problème.
Peut-être que demain.
Il n'y a pas des fois des passages à vide?
Bien sûr qu'il y a des passages
voilà.
à vide.
Pourquoi il y a des passages à vide? Est-ce que les passages à vide sont conditionnés par un manque? Quel manque?
Bien sûr.
Voilà. Donc, ce manque, parfois, est difficilement explicable. Des fois, tu sens que t'as un passage à vide, tu comprends pas pourquoi il y a un creux, mais je comprends pas. Je fais tout comme hier, comme avant-hier. Qu'est-ce qui se passe?
Et ça
nous arrive à tous, ça. Pourquoi ça nous arrive à tous? Parce qu'en vérité, mon âme cherche quelque chose. Le Yetzarara, il arrive à occulter cette envie. Le Yetzarara, il m'occupe tous les jours. Il dit, attends, passe, on verra après. Il t'occupe, il te dit, attends, fais ça. Jusqu'à la fin, t'es crevé, tu t'endors. C'est ce qu'il fait, le Yetzarara. Le Yetzarara, il est très fort pour ça. Il t'embrouille. Tu sais, comme dans une affaire, tu vois. T'es dans une affaire devant un client, ou un vendeur, et il t'embrouille. Maintenant, ton instinct, il dit, mais attends, il m'embrouille. Mais l'autre, il laisse pas le temps de réfléchir. Il dit, regarde ici. À la fin, tu n'en peux plus, tu sais plus ce que tu fais, tu finis, tu sais pas ce que tu as fait. Ça, l'Etzara, c'est ce qu'il fait. L'Etzara est très fort pour ça. L'Etzara, il t'embrouille, il t'empêche de réfléchir. Parce qu'il sait que dès que tu t'arrêtes 5 minutes et tu réfléchis, tu comprends que tu vis mal. Tu comprends que tu n'es pas heureux sans la Torah, sans la mitzvot. Tu n'es pas heureux si tu ne recherches pas à t'approcher de Dieu. Je ne reviens pas dans la Torah mitzvot. Je vais raconter une histoire pour illustrer ça. La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit que Hillel, il rend coupable les pauvres, et Rabbi Eliezer ben Tracham, il rend coupable les riches. Je vais expliquer l'histoire. La Gemara raconte comme ça. Elle dit, un pauvre, il arrive en haut après 120 ans au jugement. On lui pose la question, on lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? S'il répond, il dit, j'ai été pauvre. J'étais occupé à chercher la parnassage, c'était pas bien, etc. On lui dit, est-ce que t'étais pauvre plus que Hillel? Hillel, il était encore plus pauvre que toi, il a quand même étudié la Torah. La seconde, j'ai expliqué. Si maintenant il est riche, on lui dit, pourquoi t'as pas étudié la Torah? Il dit, j'étais riche, j'étais occupé avec mon patrimoine, d'accord? On lui dit, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Eliezer ben Tracham? Eliezer ben Tracham était riche, bon, d'accord? Immensément. Non, et pourtant il a étudié la Torah. Alors, on pose la question, on dit, mais je comprends pas, quel rapport? Parce qu'il y a eu un grand rabbin qui a réussi à étudier la Torah en étant pauvre. Et parce qu'il y a eu un grand rabbin qui a réussi à étudier la Torah en étant riche, c'est pour ça que moi tu vas m'accuser. Il est lui, il est ce qu'il est. Moi je suis pas comme ça, qu'est-ce que tu me veux? Je t'occupe pas les affaires. Seulement, qu'est-ce qu'elle veut te dire avec Mara par cette histoire? Ce qu'elle veut te dire avec Mara par cette histoire, c'est que la raison pour laquelle il était pauvre. Tu crois qu'il est, il ressentait pas le manque? Je crois qu'il est, il ressentait pas qu'il avait faim? Je crois qu'il est, il ressentait pas? Bien sûr qu'il ressentait comme tout le monde. Seulement, il a réussi à laisser son âme parler et à exprimer qu'en vérité, au fond de lui, il veut étudier. Et c'est ça la question qu'on va te poser en haut. On va pas te poser la question pourquoi t'étais pas Hillel, pourquoi t'étais pas Rabbi Eliezer ben Tracham. On sait que t'es pas Hillel, on sait très bien que t'es pas Hillel. La question qu'on va te poser, on va te dire, pourquoi t'as pas laissé ton âme parler? Pourquoi chaque fois que ton âme voulait te parler, chaque fois que ton âme t'a dit, il y a un problème, c'est ton parent. Soit on verra après, on verra après. Pourquoi t'as endormi ton âme? Pourquoi t'as fait ça? Ton âme t'a envoyé des signaux, elle arrête pas de t'envoyer des signaux. Elle te dit, attends, ton parent, arrête-toi. Arrête de faire le malin. Tu vois, c'est ton parent. Ça, tu vas nulle part comme ça. Ton âme, elle t'envoie des signaux. Mais tu les endors, tu lui dis, on verra après, etc. On vit dans un monde, on court, on sait pas, on court. Tu cours vers où? Où tu cours? Arrête-toi, réfléchis un petit peu. Ça, c'est la question qu'on nous pose après 120 ans. On nous dira, pourquoi t'as pas laissé ton âme parler? Pourquoi t'as pas laissé ton sens inné de la recherche de Dieu parler? Pourquoi tu l'as pas laissé? Ça veut dire qu'un juif, il a pas besoin de se convaincre que Dieu existe. Il sait au fond de lui que Dieu existe. Et il sent que Dieu existe. Il suffit juste qu'il se laisse parler. Mais ça, c'est une notion qu'on va développer dans les chapitres suivants, je vous l'avais dit, parce qu'il faut qu'on développe comment ça va. Mais déjà, on voit où l'Admor HaZaken veut nous amener. Honnêtement, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et je vous le dis, vous le faites déjà. Si je vous pose la question, pourquoi vous êtes venu au cours de Tania ce soir?
Pour faire plaisir à Dieu, parce qu'on l'aime.
Pourquoi tu es venu au cours de Tania? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu t'es dit? Non, c'est vrai, pourquoi tu es venu au cours de Tania ce soir?
C'est intéressant.
Pourquoi demain matin tu vas prier? Pourquoi ce matin tu as prié? Pourquoi ce matin j'ai prié?
Pour le bien-être. Ouais.
Non mais, attendez, deux secondes.
Faut pas nous culpabiliser là. Hein.
Non. Pourquoi ce matin t'as prié? Est-ce qu'il y a besoin de rentrer dans un calcul? Ce matin j'ai mis les téphilines parce que j'ai fait un calcul. Ah! Aujourd'hui j'ai une grosse affaire. J'ai besoin de demander à Dieu. Non, j'ai pas réfléchi à ça. Pourquoi j'ai prié ce matin? Parce que j'ai prié. Parce que je suis pris. C'est tout. Comme tu me demandais pourquoi t'as mangé cet après-midi, pourquoi t'as mangé ce matin, pourquoi tu vas manger ce soir. Pourquoi t'as mangé ce soir? Parce que j'ai mangé, c'est tout. Je ne peux pas poser de questions. J'ai mangé parce que j'ai mangé. Ça veut dire qu'on fait déjà beaucoup de comme ça. Et c'est là où vous nous amenez la Admor HaZaken. Bien sûr qu'il faut la crainte de Dieu aussi, ça. On en a parlé les chapitres précédents. Mais il te dit, l'amour de Dieu, finalement, c'est développer une relation innée que tu as avec Dieu que tu n'as même pas besoin de te convaincre. Tu l'as déjà au fond de toi. Il suffit juste de la laisser parler. La crainte, il faut se convaincre. J'ai besoin de me convaincre qu'il y a Dieu, etc., que c'est sérieux, et qu'il faut arrêter de faire le malin. Mais l'amour de Dieu, j'ai pas besoin de me convaincre, c'est automatique, c'est déjà en moi. Parce que je sais au fond de moi que c'est ma vie, et je sais que c'est comme ça que je suis heureux, et comme l'exemple du zoo et la liberté, il n'y a rien qui peut remplacer la liberté d'un homme. La liberté d'un juif, c'est lorsqu'il fait la Torah et les mitzvot. Alors bien sûr, les tzaris vont dire, liberté, liberté, Shabbat tu peux pas fumer, Shabbat tu peux pas ci, Shabbat tu peux pas ci, Shabbat tu peux pas ça. Mais ma liberté, c'est de faire Shabbat. Et quand je fais pas Shabbat Rasé Shalom, je suis esclave. Je me sens pas bien. Je sens qu'il manque quelque chose. Je suis esclave à un système. T'es esclave. Et tu sens que t'es pas bien. Quand tu fais Shabbat, tu sens que t'as ta vraie liberté. Parce que la vraie liberté, c'est pas que t'es là avec un vétérinaire qui te gave et qui te dit vas-y, bouffe, bouffe, bouffe. La vraie liberté, c'est quand je fais ce que je dois faire, ce que je suis conçu pour faire. Et un juif, il est conçu pour faire des mitzvot. C'est vers ça qu'on va attendre. Bon. On va s'arrêter là. Ça demande encore beaucoup de réflexion et beaucoup de développement. Mais voilà où Admor HaZaken veut nous amener. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ah, d'accord. Merci.